Peut-être je commence en me présentant un petit peu, je vous explique un peu mon parcours. Mon premier contact avec le son, je m'en suis rendu compte assez tard, mais finalement il est lié à mon papa qui faisait de l'électronique. Je suis né en 1964, donc je suis né en analogique, hein. Je suis né période analogique, et il se trouve que mon papa faisait de l'électronique. C'était pas du tout un mélomane, mais c'était un électronicien. Et il s'était fait un magnétophone en kit, un Revox, un C36 précisément. Et en fait, quand j'avais 4-5 ans, régulièrement, mon père me mettait devant son Revox. Et soit il me faisait écouter Le Petit Prince, raconté par Gérard Philippe, soit de temps en temps, il essayait de m'enregistrer. Et sur un magnétophone C36, il y a un haut-parleur intégré. Alors, je sais pas, vous avez déjà manipulé des magnétophones à bande, tous ou pas? Oui. Donc, vous savez qu'il y a deux têtes, une tête d'enregistrement et une de lecture. Vous savez qu'assez facilement, on peut faire de l'écho avec un magnétophone à bande. Et donc, je me souviens de mon père qui essayait de m'enregistrer et qui involontairement faisait de l'écho, faisait des larcènes avec le HP. Voilà, donc vers 4-5 ans, j'ai baigné dans le monde des larcènes et des échos. C'est un truc dont j'ai pris conscience il n'y a pas si longtemps que ça, en fait. Voilà, ça, c'est mon premier contact avec le son. Après, à l'adolescence, j'ai eu envie de faire de la musique. J'ai fait de la batterie en autodidacte complet, et donc j'ai joué en groupe, et il se trouve que dans le groupe dans lequel je jouais, il y avait un clavier qui avait un papa qui avait beaucoup d'argent et qui lui a offert donc dans les années 70 un synthétiseur Mini Moog, synthétiseur analogique. C'est celui-là, c'est pas ce modèle-là, c'est celui-là. Et vous savez qu'en général les répètes se passent chez les batteurs. Donc les répètes se passaient chez mes parents. Et donc le Mini Moog était à demeure chez mes parents. Il se trouve que ce musicien n'a pas continué dans la musique. Il est devenu ingénieur à l'aérospatiale. Et il m'a laissé son Mini Moog. Donc j'ai aussi manipulé assez tôt en autodidacte un synthétiseur analogique. Ensuite, pour rassurer mes parents, il a fallu que je trouve... Moi, je voulais faire de la musique, ça c'était sûr. Mais il fallait que je rassure mes parents. Donc j'ai fait une formation son dans une école de théâtre, l'ENSAT, qui était à Paris à l'époque et à Lyon maintenant. À l'époque, dans cette école, on formait au métier d'éclairagiste sonorisateur. Donc j'ai aussi appris la lumière de spectacle. Mais surtout, ce que j'ai appris dans cette école, c'est à travailler avec les autres. J'ai évidemment eu une formation technique du son, sur le son. Mais j'ai découvert le monde de la mise en scène, du décor, de la lumière, des comédiens. Et j'ai pris goût au théâtre. Moi, je venais d'une famille qui n'était pas très portée sur la culture. Il y avait très peu de musique à la maison. Le théâtre, j'y suis allé pour la première fois, une fois que j'ai été inscrit dans l'école. Je n'avais jamais mis les pieds dans un théâtre avant. Donc j'ai un peu tout découvert à l'âge de 18 ans. Et je me suis formé aux techniques du son. Ensuite, j'ai beaucoup travaillé pour le théâtre en faisant des créations son, c'est-à-dire en continuant à être à la fois technicien son, effectivement, ce que je continue de revendiquer. Hein. Je revendique la double casquette, effectivement, à la fois une démarche artistique et à la fois une démarche technique. Il m'arrive encore de me mettre au service des autres en tant que technicien. Ça devient rare parce que maintenant j'ai ma compagnie et puis que j'ai des spectacles qui tournent, mais ça peut encore m'arriver. Et je le revendique. Cette double approche à la fois artistique, moi je dirais poétique, et puis scientifique, technique. Au sein de cette école, à l'ENSAT, j'ai eu une ou deux heures de cours sur le fonctionnement de l'oreille, et ça m'a beaucoup intéressé, mais je trouvais que c'était un peu court. Donc une fois que j'ai terminé mon BTS, il se trouve qu'à l'époque, à l'IRCAM, il y avait un monsieur qui s'appelait Stephen McAdams, qui faisait des cours du soir sur l'audition. Donc pendant un an, j'ai suivi ces cours du soir à l'IRCAM, et j'ai trouvé que ce n'était pas satisfaisant. Et donc, quelques années plus tard, j'ai fait un travail de recherche universitaire sur l'audition, et notamment sur les liens entre le système auditif et la vision. Voilà, c'est un domaine que j'aime beaucoup, mieux comprendre alors le système auditif d'un point de vue physiologique, mais aussi le fonctionnement du cerveau, comment... On va en reparler, hein, de toute façon, je vais vous en parler un petit peu. Donc j'ai beaucoup fait de création pour le théâtre, j'ai aussi fait des enregistrements de disques. à une période. Je me suis beaucoup investi dans la pédagogie aussi. J'étais responsable pédagogique d'un centre de formation à Bagnolet pendant quelques années. Et puis, en 1999, j'ai eu envie de créer ma propre structure, qui s'appelle Inouï, qui au départ était un label de disques, en fait. L'idée de ce label, c'était d'explorer des sentiers un petit peu que je trouvais, moi, pas assez explorés dans le monde du disque. Je trouve que le monde du disque est un peu timoré, en fait. Et je pense qu'encore aujourd'hui, c'est un espace de création. Alors, je sais bien que le disque est en train de disparaître. Enfin, pour moi, il peut se maintenir encore quelques années. Et je trouve que c'est un espace de création où il y a encore pas mal de choses à faire. Mais j'ai fait ça en 99. Alors, vous êtes tous plutôt jeunes, donc vous n'avez pas connu ça. Mais en 2002, c'était... Quand on crée une structure, en général, ça marche au bout de 3 ans. Il faut 3 ans à peu près pour qu'une structure marche. Donc, ma structure a commencé à avoir un petit catalogue de disques en 2002. Et en 2002, c'est la grosse crise du disque en France. Voilà. C'est-à-dire qu'au mois de juin 2002, j'avais des contacts pour avoir un distributeur, ce qui est le nerf de la guerre quand on fait des disques. Et en septembre 2002, tout s'est arrêté, tout s'est écroulé. Donc, il a fallu que je bascule d'activité. Et comme j'avais eu une grande expérience en me mettant au service de metteurs en scène de spectacles, comme entre-temps j'avais découvert la musique électroacoustique, oui j'ai un peu sauté cette étape-là, moi je connaissais pas du tout la musique électroacoustique, vraiment pas du tout. Je l'ai découvert en 89, donc ça faisait déjà 5 ans que je travaillais. Je l'ai découvert en 89 en travaillant au service de Christian Zanesi, qui est un compositeur de musique électroacoustique, qui aujourd'hui co-dirige le GRM. Donc j'étais technicien son à son service, je découvre ce monde-là, et surtout je découvre que moi, dans mon travail musical et dans mon travail de création sonore, en fait je faisais de l'électroacoustique sans le savoir, en utilisant synthétiseurs. À l'époque, il y avait les premiers échantillonneurs. Voilà, je faisais de l'électroacoustique sans le savoir. Je le découvre avec Christian Zanesi, qui me montre un petit peu les manipulations de base en studio. Et plus tard, j'ai rencontré Pierre Henry, qui est aussi un musicien de l'électroacoustique. Et donc en 2002, puisque j'étais dans ce monde de l'électroacoustique, puisque j'avais une structure, puisque j'avais une connaissance du spectacle vivant, en fait je me suis dit que la compagnie Inouï allait devenir une structure qui allait essayer de faire découvrir la musique électroacoustique à un public le plus large possible. Je pense que vous le savez, la musique électroacoustique, en général dans les concerts, il n'y a quand même pas... Je sais que les gens électroacoustiques n'aiment pas quand je dis ça, mais la réalité, c'est que malgré tout, dans la plupart, à part certains festivals hyper reconnus, mais dans la plupart des spectacles, des concerts de musique électroacoustique, si on sort de la salle les musiciens de l'électroacoustique, il ne reste pas grand monde quand même. Donc je trouve, moi, que c'est une musique qui reste encore à faire découvrir. Donc je me suis dit que j'allais faire des spectacles qui allaient rentrer dans des théâtres, pour faire découvrir cette musique-là, c'est-à-dire faire sortir de la musique électroacoustique des salles de concert spécialisées, des festivals spécialisés, et la faire rentrer dans des théâtres. Et donc, depuis 2002, je crée des spectacles qui tournent dans des théâtres, qui tournent dans des scènes nationales, scènes conventionnées, théâtres municipaux, voilà, en trouvant des astuces diverses dont on va reparler cet après-midi. Autre chose qui a été assez déterminante aussi, jusqu'à maintenant, moi, je travaillais uniquement en studio, au service de spectacles vivants, des spectacles des autres. Et donc, je faisais mon travail de création en amont des spectacles. Et puis après, il était diffusé, en fait. Il était enregistré, puis après, il était diffusé soit sur bande, soit sur d'autres supports. Mais en tout cas, moi, je n'étais jamais monté sur scène, finalement. Je vous ai dit que j'ai fait de la batterie, mais j'ai toujours été amateur en batterie. Hein. J'ai jamais joué sur scène, en professionnel, en tout cas. Et donc, j'étais jamais monté sur scène. Et en 2002, au moment où j'ai envie de faire ce revirement, Sylvain Cassap, qui joue de la clarinette, me propose de faire un duo clarinette électroacoustique. Et en général, quand on fait un duo instrument électroacoustique, l'instrumentiste est sur scène et la personne qui fait l'électroacoustique est dans la salle. Puisque l'idée, c'est de contrôler le son, c'est de faire du traitement sur l'instrument et c'est de pouvoir contrôler le son. Et le réflexe, c'est de se dire, il faut qu'on soit dans la salle, il faut qu'on entende le son comme les spectateurs. Ce qui à la fois peut paraître logique, et puis finalement, si vous y réfléchissez bien, un musicien non sonorisé, quand il est sur scène, il n'entend pas ce qu'entend le public. Vous voyez ce que je veux dire? Il ne se pose pas cette question-là. Il produit sa musique, le public entend ce qu'il entend, et lui, ce qu'il entend n'a rien à voir avec ce que le public entend. Donc Sylvain Cassap m'a proposé de le rejoindre sur scène. Je ne dis pas que c'était une première, hein, il y avait déjà des musiciens qui le faisaient. Hein. Mais en tout cas, lui, il avait cette envie-là, que je sois sur scène avec lui. Et moi, j'ai découvert effectivement ce que ça changeait en tant que musicien d'être sur scène. De pas être dans la salle, mais d'être sur scène, donc de se montrer au public, ça, ce qui est déjà un élément prépondérant. Mais surtout d'être dans un rapport d'écoute plus proche du musicien avec lequel on travaille, de l'instrumentiste avec lequel on travaille. Donc on a créé un duo, ça m'a permis de monter sur scène, de découvrir la question du trac, qu'on a rarement quand on est du côté du public. Voilà. Et puis de découvrir aussi comment on peut gérer un traitement électroacoustique sans forcément entendre exactement ce qu'entend le public. Voilà. Ensuite, j'ai fait d'autres rencontres. J'ai rencontré Eric Grolot, qui est un batteur avec lequel je travaille très régulièrement. Et Dominique Pifarelli aussi, qui m'a permis de faire les premiers essais de traitement d'un orchestre entier, traitement électroacoustique. Je suis quelqu'un qui, à une époque, travaillait beaucoup sur le traitement en temps réel. Voilà à peu près pour mon parcours. Donc aujourd'hui, je dirige la compagnie Inouï, qui est une compagnie qui marche bien depuis 3 ans. Et je suis par ailleurs directeur artistique d'une collection de livres lus pour les enfants. Je ne sais pas si vous connaissez l'éditeur L'École des loisirs, qui est un éditeur vraiment pour le jeune public. Et ils ont décidé de se lancer dans l'aventure du livre lu il y a 5 ans. Et donc, je réalise pour eux des livres lus avec cette particularité qu'ils sont mis en musique. Et la petite particularité par rapport à ce qui se fait habituellement dans ce secteur-là, c'est que les musiciens sont des improvisateurs et qu'ils enregistrent avec les comédiens en même temps, dans la même salle, dans la même pièce. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une interaction très forte entre le comédien et le musicien, le ou les musiciens. Voilà, c'est un peu la caractéristique de cette collection. Ce qui pose pas mal de problèmes techniques, hein, mais artistiquement, je pense que ça a un intérêt, cette interaction texte-musique. Voilà. Donc moi, l'axe que j'ai pris, qui correspond un peu à une demande, à une commande, c'est l'amplification. Il fallait que je parle plutôt de l'amplification. Alors au début, j'ai rien compris. Je me suis demandé pourquoi il fallait que je parle de l'amplification. Et puis, assez vite, je me suis rendu compte que c'était pas si idiot, en tout cas. Non, mais je me suis rendu compte qu'effectivement, si je prends les 3 dernières créations que j'ai faites et puis le prochain projet que j'ai, ces 4 formes-là ont des systèmes d'amplification et de sonorisation très différents, effectivement, et qu'il y a des axes de travail qui sont assez différents. Et donc, je vais me fonder là-dessus, sur ces 4 spectacles-là, pour vous parler du rapport au son, à l'amplification, à la diffusion du son. Voilà. Mais avant... j'ai besoin qu'on soit tous au clair sur certaines choses par rapport à la physique du son et à l'audition. Alors je suis désolé, ça va passer un peu par le tableau et puis quelques explications, mais je pense que c'est indispensable. Voilà. Et comme vous n'avez pas tous les mêmes parcours, il y a probablement qui savent déjà ce que je vais dire. Sur l'audition, ça je suis moins sûr, mais sur la physique du son, il y en a peut-être qui savent déjà, tant pis, hein, ça sera une petite... Mais je pense que vous en avez besoin. Tout le monde est au clair sur ce que c'est que le phénomène physique du son ou pas? Ou est-ce qu'il y en a qui savent qu'ils ne sont pas au clair? Si je vous parle de phase, c'est absolument clair pour tout le monde, par exemple? La phase du son, c'est pas clair. Bon, ben voilà, donc déjà ça c'est un élément important. Je ne sais pas comment vous définissez, vous, le son. Qu'est-ce que c'est que le phénomène sonore, selon vous? S'il y en a qui savent.
Vibration de l'air.
Ouais, alors avant la vibration de l'air, il y a. Oui, enfin, au final, c'est une vibration de l'air, effectivement. Ce qui veut dire qu'au départ, avant qu'il y ait vibration de l'air, il y a une vibration quelque part. Effectivement, le phénomène sonore est un phénomène vibratoire, ça, c'est une constante. Et tu as raison en disant vibration de l'air, parce qu'effectivement, il n'y a pas systématiquement une vibration avant. Souvent, il y en a une. Hein. Quand je parle, ce sont mes cordes vocales qui vibrent. Sur un piano, ça va être les cordes du piano. Si je tape sur la table, c'est la surface de la table qui vibre. Et finalement, ça fait vibrer l'air. Mais il y a une petite exception. Il y a un instrument de musique qui crée un phénomène sonore sans avoir un élément mécanique qui vibre. Vous voyez quel instrument c'est? Quel principe acoustique c'est? C'est le sifflet, en fait, c'est la flûte. Voilà. Qui provoque directement une vibration des particules d'air sans passer par une vibration mécanique. À ma connaissance, c'est C'est le seul contre-exemple. Donc effectivement, c'est une vibration qui effectivement se propage dans l'air. On est d'accord que s'il n'y a pas le support de l'air, il n'y a pas, il n'y a pas propagation du son. Ou alors en tout cas, il faut qu'il y ait un support. Ça peut être de l'eau, hein, le son se propage dans l'eau. Le son se propage dans les matériaux, dans le métal. Mais en tout cas, il a besoin d'un support. Dans le vide, il n'y a pas de son. Contrairement à ce que voudraient nous faire croire certains sites internet en ce moment, ben, qui nous parlent beaucoup des sons de l'espace. Je ne sais pas si vous avez vu ça, ça circule beaucoup en ce moment. Oh ouais, les sons de l'espace, qui ne sont pas des sons en fait, qui sont des, voilà, des transpositions de phénomènes magnétiques dans le champ du son. Il n'y a pas de son dans l'espace. Et donc c'est un phénomène vibratoire, donc un phénomène ondulatoire, un phénomène qui se répète, un phénomène cyclique, qui se répète identique à lui-même, suivant un cycle répétitif. Comment on pourrait dessiner, illustrer le phénomène vibratoire du son? Si je prends un premier axe, si je m'intéresse à ce qui se passe au niveau d'une molécule d'air dans l'espace, quand il y a un son. Ce qui va se passer, c'est une alternance de compression et décompression de la molécule d'air. Si je prends ce qui se passe à la surface d'une peau, de la peau d'un tambour, si je le fais sonner, c'est un aller-retour, en fait, hein, sur place de la peau du tambour. La corde d'un violon, d'un piano, c'est pareil, hein, c'est un aller-retour sur place. D'accord ? Donc si je devais représenter le phénomène sonore sur un axe, si je considère que le point zéro, c'est ce qui se passe quand il n'y a pas de son, donc soit la particule d'air, soit la peau, soit la corde est au repos, comment je vais pouvoir dessiner le phénomène sonore que je vais pouvoir provoquer, soit en frappant sur la peau du tambour, soit sur la corde? Qu'est-ce que je dois dessiner en fait sur cet axe? Une alternance, en fait, si c'est la peau du tambour, ça va être un aller-retour de bas en haut. Si c'est les molécules d'air, c'est vraiment une alternance compression-décompression des molécules d'air. Sur place, hein, on est d'accord, hein. Il n'y a pas de déplacement des molécules d'air, c'est vraiment un mouvement vibratoire sur place. Ou la corde d'un piano, c'est un mouvement comme ça en aller-retour. Donc si je devais le représenter sur cet axe-là, ça ferait quelque chose comme ça. M'arrêtez dès que je ne suis pas clair. Hein. Et tout le long de l'après-midi, dès que vous avez une remarque, ou s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, évidemment, vous me le dites. Hein. Le plus on est en interaction, le mieux c'est. Oui ? Alors non, c'est le repos. Je dirais. Alors oui, c'est ce qui se passe dans cette pièce. On considère, on va appeler le zéro. C'est une convention qu'on vous donne. Hein. C'est la peau du tambour au repos. Ça, c'est le zéro. Dans cette pièce, ça serait l'état d'une molécule d'air si effectivement c'est le silence dans la pièce. D'accord ? Mais on décide que c'est le zéro. Donc effectivement, la peau, quand elle n'est pas en vibration, elle est là. Et puis dès que je la fais rentrer en vibration, on a ce phénomène en aller-retour. D'accord ? Ce qu'on va rajouter pour clarifier ce dessin, je pense qu'il y en a qui me voyaient venir hein, depuis tout à l'heure, on va rajouter un axe horizontal qui va représenter le déroulement du temps. Et donc ce mouvement en aller-retour, si je me déplace vers la droite en le faisant, ça donne quoi? Ça donne ça. Il y en a pour qui c'est évident, mais... Cette représentation du son, vous allez voir qu'elle nous permet de comprendre très clairement les paramètres du son et la notion de phase. Et la notion de phase, je vais y revenir dessus très régulièrement. Je pense que c'est indispensable, quel que soit le projet que vous ayez, je pense que c'est indispensable de connaître la phase, la question de la phase du son. Vous allez voir à quel point ça peut être important. Donc ça, ce que j'ai écrit, ce que j'ai dessiné là, c'est la représentation d'un son très très simple, ultra simple, quasiment inexistant dans la nature d'ailleurs. Ça pourrait se rapprocher du son d'une flûte. La flûte est assez proche d'un son comme ça, à peu près pur. Qu'est-ce qu'on pourrait définir comme valeur? Qu'est-ce que vous connaissez comme valeur par rapport à ce genre de représentation? Ouais, qui permettrait de définir ce phénomène-là et du coup de définir certains paramètres du son. Qu'est-ce qui vous paraît intéressant comme valeur physique? Qu'est-ce qu'on pourrait mesurer? dans un schéma comme celui-là. On pourrait mesurer l'écart entre le point maximum et le point minimum, cet écart-là. Ça, on appelle ça l'amplitude. À votre avis, ça correspond à quoi en termes de sensation sonore? Plus l'amplitude sera grande, plus le son sera. Eh non, justement. Comme quoi, c'est intéressant comment on passe par là. Plus la peau du tambour va faire ça, moins elle va faire ça. Si elle fait ça ou si elle fait ça, plus ça sera
fort. Ouais.
Ça va correspondre à une sensation de puissance. Alors si on s'intéresse à ce qui se passe au niveau d'une molécule d'air, ce qu'on va mesurer finalement c'est la pression de cette molécule d'air. Pression sur place de la molécule d'air. Donc l'amplitude, l'écart entre le maximum et le minimum. Qu'est-ce qu'on peut mesurer d'autre? On est d'accord qu'il y a quelque chose qui se répète, identique à lui-même. Ça, là, ce phénomène-là, de là à là, c'est le même que ce phénomène-là, de là à là. Et ça va être le même. Vous le voyez, hein, c'est un phénomène périodique. Hein. Qu'est-ce qu'on pourrait définir? Sachant que c'est quelque chose qui se déroule dans le temps. C'est bien que vous ne sachiez pas tout ça, donc vous allez faire des découvertes. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous proposez? On pourrait définir le temps que met le phénomène à faire un aller-retour complet. Pardon?
C'est déjà sur la ligne de temps, mais c'est déjà noté.
Non, enfin c'est déjà noté. On est, là j'ai fait, on est d'accord que... pardon, c'est peut-être pas assez clair. Là, j'ai fait un certain type de dessin, mais j'aurais pu faire ça. Et puis surtout, j'aurais pu faire ça. C'est bien, comme ça, mon dessin est devenu illisible. On est bien d'accord qu'il y a une variable. D'accord? Donc, le temps qu'il y a entre le temps d'un cycle complet, on va appeler ça la longueur d'onde. D'un point de vue pratique, ce n'est pas tellement cette valeur-là qu'on va garder. C'est une valeur à peu près équivalente. Ce qu'on va calculer, c'est le nombre d'allers-retours pendant une seconde. Le nombre de cycles par seconde. Vous voyez ce que je veux dire? Combien de fois la peau va faire d'allers-retours pendant une seconde, combien de fois la corde va faire d'aller-retour, combien de fois mes cordes vocales vont faire d'aller-retour pendant une seconde. Ça, c'est ce qu'on appelle la fréquence. Et donc, à votre avis, ça correspond à quoi en termes de sensation?
À la puissance.
Non, donc ça correspond à la hauteur du son, à la sensation de grave et aigu, donc la sensation de hauteur. Il y a une valeur en fréquence qui est très utilisée comme valeur de référence par les musiciens. Le 440. Ce qu'on appelle le La 440, c'est un La qui oscille à 440 Hz. C'est un La qui fait 440 oscillations par seconde. C'est ça que ça veut dire. Ça va? Je peux effacer? Je vais refaire un dessin. Je vais le reclarifier un peu. Je vais juste effacer ça. Parce qu'il y a une autre valeur qui pour moi est encore plus importante. Donc, je refais le même genre de dessin. L'autre valeur, qui est beaucoup plus complexe à comprendre parce que d'un point de vue auditif, ça correspond à rien. C'est la notion de phase. C'est le fait que là, mon démarrage, je l'ai fait là, mais en fait, j'aurais pu le faire là. On est d'accord que le son dessiné en noir et le son dessiné en rouge, ils ont la même amplitude et ils ont la même fréquence. D'accord ? Ce qui les différencie, c'est à quel moment ça se passe dans le temps. Ça, c'est ce qu'on appelle la phase. Et on est d'accord, enfin on est d'accord, je ne sais pas si on est d'accord. Imaginons un cas extrême, imaginons un son qui aurait cette tête-là. Mon son orange, il a la même amplitude que le son noir, il a la même fréquence que le son noir. La seule particularité, c'est que quand le son noir est à son maximum, le son orange est à son minimum. Et inversement. Ah bah, c'est clair. Imaginez un système vibratoire, quelque chose, une force qui aurait tendance à pousser en aller-retour ce micro dans ce sens-là. Imaginez le même phénomène, mais qui marche à l'envers. Si je fais les deux phénomènes en même temps, passe, il n'y a plus de vibration. Là, le micro vibre. Là, le micro vibre. Là, si je le fais vraiment pile poil, il vibre plus. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui se passe si je vous fais écouter le son noir et le son orange en même temps? Il se passe rien. Donc, je vous sens sceptique. Il se trouve que sur la console, j'ai un système qui me permet de créer ce phénomène particulier qui s'appelle l'opposition de phase. Le son orange est en opposition de phase par rapport au son noir. Déphasé, le son rouge, il est déphasé par rapport au son noir. Quelle que soit la position du deuxième son par rapport au premier, à partir du moment où il est pile pas, il n'est pas pile poil, il se déroule pas pile poil en même temps, on parle de déphasage. Voilà. L'opposition de phase, c'est un cas particulier du déphasage. C'est un cas extrême du déphasage. Ici, j'ai un micro. Je l'ai fait rentrer dans deux tranches de ma console. Ici, si je monte cette tranche-là, j'ai mon micro. Si je baisse, j'ai plus rien. Si je remonte, j'ai du son. D'accord ? J'ai pu le faire rentrer dans la tranche d'à côté. Donc je baisse cette tranche-là, je monte la tranche d'à côté. J'ai du son, le même son. D'accord ? Si je monte les deux potentiomètres, les deux sons vont s'ajouter. Finalement, ce que je fais là, c'est le son noir plus le son noir. D'accord ? Le son noir, le même son noir, le son noir plus le son noir, ça fait le même son un petit peu plus fort. Ok ? Maintenant, je vais demander à une des tranches de se mettre en position orange. Je crée une opposition de phase. Le son noir, le son orange, est-ce que vous entendez une différence entre le son noir et le son orange ? Son orange, son noir. Il n'y a pas de différence. On n'entend pas la différence de phase. Si je monte les deux potentiomètres, il n'y a plus de son. Ah, ça me fait plaisir. Je vois les sourcils qui se froncent, ça me fait plaisir. Un son, le son noir, le son orange, les deux sons, il n'y a plus de son. Je suis vraiment dans le cas de figure où j'ai une opposition de phase parfaite. C'est l'intérêt de cette console-là, c'est qu'elle permet de faire une opposition de phase parfaite. Voilà, j'ai vraiment plus de son. Hein. Si je commence à baisser un tout petit peu un des micros, hop, on va retrouver du son. Hein. Si je le remonte, et s'ils sont pile poil au même niveau, j'ai plus de son. Alors là, je le fais avec la console, mais ce phénomène-là, il peut se produire. Par exemple, vous faites une prise de son avec ces deux micros-là. il y a un problème de câble. Il y a un des deux câbles qui est câblé électriquement à l'inverse, ce qui peut arriver. Qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir une opposition de phase entre les deux micros. Si les deux micros sont pile poil côte à côte, il n'y a pas de son. Les micros, pas de son. Autre cas de figure, vous, sur cette enceinte-là, vous posez la même enceinte. Exactement le même modèle d'enceinte. Il y a un problème de câblage entre les deux enceintes. Il y a une inversion de câble. Le son qui va sortir de ce haut-parleur, il va être dans une certaine phase, c'est-à-dire qu'au moment où le haut-parleur va recevoir ce phénomène-là, il va aller dans un sens, il va aller, disons, comme ça. On est d'accord qu'un haut-parleur, c'est un système vibratoire. Un haut-parleur marche parce qu'il oscille comme ça. Si je pose sur cette enceinte-là la même enceinte et qu'elle est câblée à l'envers, quand ce haut-parleur-là va avoir tendance à aller vers l'avant, celui-là va avoir tendance à aller vers l'arrière. Si les enceintes sont très proches, je crée une opposition de phase. C'est-à-dire qu'au lieu d'amplifier mon signal, je vais le faire décroître.
Quand vous parlez de câblage inversé, c'est-à-dire plus et moins...
Ouais, plus et moins inversé, ouais. Évidemment que dans les sociétés professionnelles, les câbles ils sont tous bien soudés, hein. Mais dans les sociétés professionnelles, on trouve des câbles mal soudés. Ça arrive. Je peux vous dire que par exemple, sur la face cachée de la Lune, le premier travail que fait notre ingénieur du son, quand il arrive dans les salles, c'est qu'il vérifie la phase de tous les haut-parleurs qu'il y a dans la salle. Au minimum, une fois sur deux, il y a des problèmes de phase. Au minimum, une fois sur deux. Vous n'imaginez pas le nombre d'erreurs d'installation qu'il peut y avoir.
Et comment visuellement, comment on s'en rend compte?
Alors, comment on s'en rend compte? On peut envoyer un signal qui fait un signal qui émet ce qu'on appelle un tac, en fait, une impulsion. Tu envoies un signal qui fait une impulsion et tu vois le haut-parleur en fait qui bouge. Tu vérifies sur toutes les enceintes s'ils bougent tous dans le même sens. Si un endroit il a tendance à aller vers l'arrière au lieu d'aller vers l'avant, c'est qu'un problème de phase. Sinon, tu envoies un signal, ce qu'on appelle un bruit blanc. Le bruit blanc, c'est un espèce de souffle. Et puis, tu l'envoies partout sur toutes les enceintes et tu balades ton oreille entre les enceintes. Et en fait, quand il y a des problèmes de phase entre plusieurs enceintes, quand tu es en mouvement, ça crée un phénomène de flangeur en fait. Ça crée un phénomène de glissement. Je vais vous en parler un petit peu tout à l'heure. Donc tu l'entends. Par ailleurs, s'il y a un hors-phase entre deux enceintes, quand les enceintes sont en phase et que tu envoies le même signal dans les deux enceintes, si tu te mets entre les deux enceintes, on est d'accord qu'il y a une image fantôme qui se crée, ce qu'on appelle une image fantôme. C'est-à-dire que si tu es pile poil entre les deux enceintes, tu as l'impression que le son il vient de là. Tu as vraiment l'impression qu'il y a une enceinte là. Si les enceintes sont hors-phase, tu n'as plus cette impression. Le son, il devient complètement flou, en fait. Tu n'as pas du tout l'apparition d'une enceinte virtuelle. Voilà, ça, c'est une autre solution pour vérifier. Donc, la question de la phase, du hors-phase et du en-phase, elle est essentielle quand on multiplie les enceintes, quand on multiplie les micros. Vous allez comprendre pourquoi. Il faut d'abord que j'avance un petit peu plus loin. On va aller encore un tout petit peu plus loin dans la description du son. Et vous allez voir qu'elle est essentielle pour comprendre le fonctionnement de l'oreille. Ça va? C'est clair? Je peux effacer? Parce que là, je parle de son pur. Donc finalement, ce n'est pas tellement ce qui se passe dans la nature. Un son pur, vous voyez ce que c'est qu'un son pur? Un son pur, c'est un truc comme ça. C'est très moche, un son pur. Voilà, ça c'est un son pur. Ça, c'est la référence de l'ingénieur du son. C'est le 1000 Hz. 1000 vibrations par seconde. Ça, c'est 100 Hz. 100 vibrations par seconde. Et ça, c'est le truc que j'entendrai plus dans 15 ans, 20 ans. Oh, j'exagère. Je sais pas. C'est 10 000, non, quand même. J'espère que j'entendrai encore le 10 000. C'est 10 000 Hz.
Ça fait audiomètre, ça, la table de mixage.
Alors pourquoi il y a ces sons là dans la table de mixage? Parce que c'est des références dont on a besoin en fait. Par exemple, tout à l'heure quand j'ai testé l'installation, voilà, la console génère un son qui permet de faire des tests. En général, sur les consoles, t'as ça, c'est le bruit blanc dont je parlais tout à l'heure. Le bruit blanc, c'est toutes les fréquences audibles par l'homme mélangées. Vous savez, c'est un peu comme quand on mélange toutes les couleurs, ça crée du blanc. Bah, avec le son, c'est pareil, enfin, on l'appelle comme ça. Le bruit blanc, c'est ça, c'est ce souffle. Les fréquences varient de façon aléatoire et ça crée ce souffle. Et ça, ce sont des fréquences pures. Ça permet, par exemple, Par exemple, si je voulais vérifier l'état de ces enceintes, j'en allumerais qu'une. Et puis, si le tweeter, si le haut-parleur d'aiguille était mort, quand je mets le 10 kg, probablement que je n'entendrais pas. Ou en tout cas, je l'entendrais très mal. Et en mettant le 100, je vérifie que ce haut-parleur-là marche bien. D'ailleurs, en l'occurrence, c'est l'autre qui marche. Et d'ailleurs, vous le sentez, hein, vous pouvez aussi vérifier en... Avec le contact, pas sur le haut-parleur d'aiguille, mais sur le haut-parleur de grave, vous le sentez. Hein. Il vibre en haut-parleur. Le 1000 Hz, c'est une fréquence qu'on utilise pour aligner les machines. Alors, c'est un truc dont vous pourrez peut-être avoir besoin de temps en temps. Si, par exemple, vous branchez derrière cette console un enregistreur, que ce soit un enregistreur numérique ou un magnétophone à bande, sur votre console, il y a un vue-mètre. Sur votre magnéto, il y a un vue-mètre. Si vous ne voulez pas être sans cesse en train de vérifier le vue-mètre de votre magnéto, vous envoyez un 1000 Hz. Vous mettez votre vue-mètre à une certaine valeur, par exemple 0 sur ce vue-mètre-là. Vous allez régler le vue-mètre du magnéto, vous allez l'amener à 0, et vous savez que vos deux vue-mètres marchent de la même façon. Voilà, ça c'est une des utilisations majeures du 1000 Hz. On peut continuer ? Ça ne va pas durer très longtemps, hein, la physique. Là, je vous ai parlé de sons simples, mais les sons que vous écoutez, ils sont un peu plus complexes que ça. Si je reprends mon même axe vertical et le même axe horizontal, en fait, les sons que vous écoutez sont des superpositions du schéma simple qu'on a vu, de ce qu'on appelle des sinusoïdes. Par exemple, un La 440 sur un piano, vous allez entendre le La 440, qu'on va appeler la fondamentale. Et puis, vous allez entendre la première harmonique. Je vais essayer de le faire bien. Je suis perdu. Je ne sais pas si je l'ai très bien dessiné, mais en fait, la première harmonique, il y a un rapport mathématique, c'est 880. La deuxième harmonique, c'est combien ? Il n'y a aucun matheux dans la salle. Là, c'est deux fois. Là, ça va être trois fois, en fait. C'est pas quatre fois, hein, c'est trois fois. On passe par la troisième harmonique, donc c'est 1300. Et effectivement, après, hein, je vais encore avoir. Et donc ça va être 1760. C'est ça. Etc. Il y en a d'autres hein, encore. Enfin, il y en a potentiellement d'autres. Quand vous écoutez un son musical, ce que vous écoutez, c'est le mélange de tous ces éléments-là, d'une fondamentale et de toute une série d'harmoniques. Et donc, si je reviens à mon histoire de phase, c'est là où ça devient un peu plus complexe. Si, à ce son-là, j'ajoute le même son légèrement décalé dans le temps, je vais choisir ce décalage-là. Je vais avoir ici un certain déphasage, mais le même décalage ici, il va être plus important par rapport à la fréquence. Et peut-être qu'ici, tu vas avoir pile poil une opposition de phase. Par contre, ici, ça va être tellement décalé que ça ne sera plus une opposition de phase, ça va être un truc légèrement décalé. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est que s'il y a un même son, s'il y a un son, j'additionne le même son légèrement décalé dans le temps, qu'est-ce qui va se passer ? Je vais filtrer le son, en fait. C'est-à-dire que ma fondamentale, elle va être entendue plus forte, ça va s'additionner quasiment, et donc ça va être plus fort. La première harmonique, c'est pareil, elle va être plus forte. Par contre, la troisième harmonique, elle va disparaître. La quatrième, elle sera là. Peut-être que la cinquième sera là aussi. Peut-être que la sixième ne sera pas là, probablement, s'il y a en phase sur celle-là, il y aura probablement un fa sur l'autre. Or, ça, c'est ce qui fait le timbre d'un son, c'est ce qui fait la couleur d'un son. La présence de telle ou telle harmonie, c'est ce qui fait que vous êtes capable de distinguer une guitare d'un piano, par exemple. Un La 440 sur une guitare ou un La 440 sur un piano, vous n'entendez pas la même chose, on est d'accord. Ce qu'il y a de commun dans le La 440 du piano et de la guitare, c'est ça. C'est la fondamentale. Mais, alors je ne sais pas exactement, mais sur un piano, vous allez peut-être avoir les quatre premières harmoniques très présentes, et puis après ça va se perdre, ou alors ça va peut-être une harmonique sur trois qui va être très présente, alors que sur une guitare, ça va être une harmonique sur quatre. Enfin voilà, c'est des découpages comme ça, qui sont liés à la fabrication de l'instrument, à la lutherie de l'instrument, qui va avoir tendance à favoriser telle ou telle harmonique. En tout cas, c'est un des éléments qui vous permettent de distinguer les sons. Et donc, en ajoutant un son, le même son légèrement décalé dans le temps, on crée finalement un filtrage. On peut faire un filtre simplement en jouant sur un décalage temporel. Comment je peux le créer, mon décalage temporel, d'un point de vue concret? Comment ce phénomène il peut arriver? Un son plus le même son légèrement décalé dans le temps. Est-ce que vous connaissez la vitesse de propagation du son dans l'air? Je vous ai assommé. Après, on va parler que de trucs simples. Je vous promets. Mais je suis obligé de définir ça, parce que je ne vais pas arrêter d'y revenir. Et vraiment, je pense que c'est essentiel de comprendre ça. Quelle est la vitesse de propagation du son dans l'air? Ça, c'est un élément important à connaître, parce que c'est ce qui crée plein de problèmes, en fait. C'est ce qui crée tous ces problèmes. Alors, problèmes qui peuvent devenir des outils de création, hein, évidemment. La vitesse de propagation de la lumière, vous la connaissez?
Non.
Ah, vous êtes vraiment des artistes. Hein. 300 000 km par seconde. Ça, c'est la lumière. Vitesse de propagation du son dans l'air, c'est 0,3 km par seconde. C'est pour utiliser la même unité, hein. C'est-à-dire c'est 300. Alors la valeur qu'on retient en général, c'est 330 mètres par seconde. Je dis la valeur qu'on retient en général parce que c'est une valeur qui change. La vitesse de propagation du son dans l'air, elle est directement liée à la matière, aux molécules d'air. Or, ces molécules d'air n'ont pas les mêmes caractéristiques selon le taux d'humidité, selon la température. Donc ça change. La vitesse de propagation du son dans l'air, en extérieur, au cours d'une journée, la vitesse ne se propage pas toujours à la même vitesse. Vous pouvez faire des réglages, on va en parler un tout petit peu, des réglages dans la journée en plein cagnard, des réglages de délai par exemple, comme on va un peu en parler, et puis le soir, vos délais ne marchent plus, hein, parce que la température est redescendue. On a même créé des logiciels qui, avec des thermomètres qui permettent de tout recaler automatiquement. 330 mètres par seconde, ça vous paraît rapide, ça vous paraît lent? Par rapport à la lumière, c'est un petit peu long, quoi. Ça veut dire qu'à l'échelle de notre planète, le phénomène lumineux, il est quasi instantané, alors que le phénomène sonore, il est loin d'être instantané. 300 mètres par seconde, ça veut dire que s'il y a un phénomène sonore qui se produit à 300 mètres d'ici, il va mettre une seconde à arriver à mon oreille. C'est super long. Hein. Ça veut dire qu'à l'échelle d'un stade, alors je connais pas bien les longueurs des stades, mais le stade de France, ça fait bien plus de 300 mètres, ça doit se chiffrer à, je sais pas, 600-700 mètres. Même peut-être plus, même, je ne sais pas. En tout cas, à 600 mètres, 2 secondes. Même à l'échelle de cette salle, hein, il se passe quelque chose. Hein. Parce que 30 mètres par seconde, ça veut dire 30 mètres en un dixième de seconde, ça veut dire 3 mètres, un centième de seconde. Un centième de seconde, c'est pas rien, hein, ça peut jouer. Donc ça va vite. Hein. Le décalage temporel, il vient vite. Donc, dans quelle situation je peux me retrouver avec un décalage sonore comme ça, de façon involontaire? Bah, par exemple, si je me mets ici par rapport aux deux micros, j'ai ma voix qui arrive à ce micro-là, et un petit peu plus tard, à ce micro-là. Il est plus loin. Hein. Il y a un délai. Hein. Il y a un délai de quelques millisecondes. Bah, ma voix, elle est filtrée. Si vous superposez les deux micros, c'est que vous n'avez pas exactement le timbre de ma voix. Ma voix est filtrée, il y a certaines harmoniques qui disparaissent. Autre cas de figure, si je diffuse une musique sur ces deux enceintes, Toi, tu vas avoir le son de cette enceinte-là qui va arriver à ton oreille. Et puis, un peu plus tard, le son de cette enceinte-là qui va arriver à ton oreille. Le son est filtré. Il est abîmé. Et même, ça se passe en permanence dans cette salle. Là, vous m'écoutez. On est d'accord qu'il y a le son de ma voix qui arrive directement à votre oreille. Mais il y a le son de ma voix qui va taper. Alors, en plus, vous avez des panneaux maintenant. Qui va taper sur le mur, là-haut. Et puis qui va arriver à votre oreille. On est d'accord que ce trajet-là, il est plus long que ce trajet-là. Donc déjà, il y a un filtrage. En fait, ma voix, elle ne sonne pas pareil si je suis là. Si je suis ici. Si je suis ici. Et probablement assez différemment si je suis ici. Probablement que ça, moi je le sens beaucoup. Probablement que vous devez le sentir aussi. Qu'est-ce qui se passe là? Il y a un système de rebond avec la vitre qui est là, le mur qui est là, probablement le mur qui est là-bas. Et en plus, il y a des allers-retours. Il y a un effet ping-pong. Là, je suis entre deux surfaces réfléchissantes, donc il y a une espèce de ping-pong. Et alors ça, c'est radical pour créer un filtre. Autre exemple, c'est ça.
Pourquoi ma voix n'est plus la même hein? Parce que, ajouté au son direct de ma voix, il y a tout un tas d'allers-retours entre mes deux mains. Ça, ça crée des retards, ça crée un filtre. D'accord.
Si vous vous amusez à mettre des tuyaux devant les haut-parleurs, vous créez des filtres. C'est bien, non? C'est un outil de création possible. Ça va? C'est clair? Imaginez une machine qui permettrait d'ajouter un signal, le signal rouge, et puis de le décaler un peu plus dans le temps. Et puis de le faire revenir, et puis de le redécaler dans le temps, et puis de le faire revenir. Qu'est-ce qui se passerait? À un moment donné, on aurait cette harmonique-là qui serait en opposition de phase, et puis si je continue à le décaler dans le temps, hop, elle va se remettre en phase, mais par contre celle-là va se mettre en opposition de phase. On aurait un système qui permettrait de temps en temps de baisser une harmonique, de la remonter ensuite, et puis de façon opposée, il y aurait une autre harmonique qui... Vous voyez, il y aurait un truc comme ça, quoi, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? C'est clair? C'est-à-dire que je crée un décalage temporel variable. À un moment donné, c'est le rouge, et puis à un autre moment, c'est l'orange. Ben là, par exemple, l'orange, il devient en opposition de phase avec le noir, alors que là, ça ne sera plus en opposition de phase. Vous comprenez? Donc à un moment donné, je suis dans le décalage rouge, cette harmonie disparaît, et puis l'instant d'après, je suis dans la position orange, cette harmonie disparaît, alors que celle-là revient. C'est-à-dire que j'ai mon timbre qui évolue. Imaginez un appareil qui ferait ça, qui décalerait dans le temps, puis il arrive à un maximum, et puis il revient, et puis il redécale dans le temps, et puis il revient. Vous avez inventé le flanger. Un flanger, c'est ça. Hein. Pour ceux qui connaissent l'effet des flangers, le flanger, c'est ça. C'est un système qui crée un décalage dans le temps en aller-retour. Le flanger, c'est un phénomène qui peut se produire dans la nature. Si vous vous déplacez entre ces deux enceintes-là pendant qu'elles émettent un son constant, vous allez entendre un flanger. Parce qu'il y a un moment où je suis ici, il y a le son de cette enceinte-là qui arrive à mon oreille, celui-là qui arrive un peu plus tard. Si je me mets ici, on est d'accord que le décalage temporel, il n'est plus le même. D'accord? Si je me mets ici, il n'est plus le même. Elles sont de nouveau en phase. Si je me mets ici, d'accord? Donc si je me déplace entre ces deux enceintes-là, sur certains sons assez riches, je vais entendre un phénomène de flanger. C'est un truc que vous pouvez entendre dans la nature quand vous baladez à côté d'une chute d'eau. Vous baladez à côté d'une chute d'eau et s'il y a des parois réfléchissantes autour, si vous vous déplacez, vous entendez un effet de flanger. Ça va? C'est clair? Ça veut dire aussi, je vous le signale au passage, que plus vous mettez d'enceinte dans une pièce, plus vous créez des perturbations de phase. Que finalement, si vous voulez contrôler au mieux le son que vous produisez, il vaut mieux avoir une seule enceinte. Imaginons que vous soyez quelqu'un qui travaille vraiment sur la matière sonore, sur les fréquences, sur de la synthèse par exemple. Si vous voulez être sûr de ce que tous les gens entendent, si vous ne voulez pas qu'il y ait de problème de phase, il vaut mieux travailler en mono plutôt qu'en stéréo. Signal au passage. Non, mais je vous le signale parce qu'on a ce réflexe de la stéréo systématique. La mono, c'est pas mal.
You can explain it in French, but the difference between a flange filter and a phaser filter?
Alors, en fait, oui, tu as raison, parce qu'en fait, ce que j'ai défini, ce n'est pas un flanger, c'est un phaser. Pardon. Mm-hmm. Ce que j'ai expliqué, c'est le phénomène du phasing. Le flanger, c'est la même chose, sauf qu'en sortie du flanger, il y a une réinjection du signal vers l'entrée. Mm-hmm. Donc, on va avoir tendance à créer un Larsen, en fait. Et donc, tout à coup, on va entendre les harmoniques qui apparaissent. L'harmonique en elle-même, au-delà du signal. Tu vois ce que je veux dire? Là, on n'a que le signal et on a modification des harmoniques du signal. Si en sortie, je crée une réinjection, là, l'harmonique va rentrer en résonance, en fait. C'est ce qui fait que le flanging crée des harmoniques beaucoup plus... On entend beaucoup plus les harmoniques, en fait, sur un flanger. Voilà, différence entre un phaser et un flanger, c'est ça. Flanger, il y a une réinjection du signal à l'entrée.
Merci.
Non, merci, parce qu'effectivement, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est le phasing, c'est pas le flanging. Ça va? Ben voilà, vous savez tout. Sur la physique du son, vous savez, à mon sens, l'essentiel. C'est vraiment hyper important, hein, cette question de phase. Dès que vous utilisez des micros, dès que vous utilisez des haut-parleurs, dès que vous utilisez plusieurs capteurs ou plusieurs sources, vous êtes confronté à des phénomènes de phase. Dès que vous travaillez dans un espace clos, vous êtes confronté à des phénomènes de phase. Placez votre enceinte là, vous la placez plus près, ou la placer dans le coin de ce mur, ça change tout. Absolument tout. Faites des essais. Mais ça change tout. Vraiment. C'est pas anodin. Le placement d'une enceinte, c'est pas anodin. Et alors, l'autre endroit où c'est vraiment intéressant, c'est quand on parle de l'oreille. Je vérifie que j'ai tout dit. Alors, le premier élément de l'oreille, c'est quoi? Ce truc-là. Ça s'appelle comment? Pavillon. Je dessine très mal, je le sais. Je n'y peux rien. Et voilà. Je crois que je ne me referai pas à ce niveau-là. Il est beau mon pavillon, hein? Super. Donc le pavillon d'une oreille, vous avez vu que c'est quand même un objet assez complexe. Vous avez remarqué que vous n'avez pas le même. Et c'est un truc plein de relief. À votre avis, il sert à quoi le pavillon de cette oreille? À quoi ça sert le pavillon d'une oreille? Je vous signale que chez l'être humain, il y a 40 muscles qui nous permettraient, si on savait encore les utiliser, de bouger nos oreilles. On ne sait plus l'utiliser, mais à une époque, on pouvait bouger nos oreilles. Vous avez remarqué que les chats bougent leurs oreilles, les chiens. À quoi il sert le pavillon ? Essayez d'améliorer, quoi. Alors, qu'est-ce qui se passe à votre avis au niveau de ce pavillon? Ici, on est d'accord qu'il y a une ouverture, et qu'après, on va avoir le conduit auditif de l'oreille. On est d'accord qu'il y a une partie du son qui va arriver directement au niveau du conduit auditif. Mais qu'est-ce qui va se passer au niveau du pavillon de l'oreille?
Les ondes vont bien dessus, comme vous avez maintenant.
Exactement. Donc il va y avoir pouf, 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 pouf. Et puis il va y avoir pouf, 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 etc., etc. Tous ces reliefs créent des toutes petites perturbations du signal. C'est-à-dire que ce qui rentre dans mon oreille, c'est une phase, la phase principale en noir, et le même son avec des légers décalages de phase qui rentrent ensuite. Imaginons qu'un son se passe en un point de l'espace dans cette pièce. Il arrive, il rentre directement dans le conduit auditif, mais il y a une partie des ondes qui vont venir faire des ricochets, en fait, des rebonds sur le pavillon de mon oreille. D'accord ? Si je tourne un tout petit peu la tête, il ne se passe plus les mêmes rebonds. D'accord ? Les formes de pavillon de mon oreille ne se placent pas de la même façon par rapport à la source, ça change les rebonds. C'est-à-dire que, suivant la position du pavillon de mon oreille par rapport à la source, ou si la source se déplace, je ne vais pas avoir les mêmes rebonds qui vont se passer au niveau du pavillon de mon oreille. C'est-à-dire que si le son se déplace ou si je tourne la tête, j'ai mon son qui rentre, plus un décalage de phase, et quand je bouge la tête ou que le son bouge, ce décalage de phase, il change. C'est clair ? Il change un petit peu. D'accord ? Et bien ça, vous ne l'entendez pas comme un filtrage, mais votre cerveau, il est capable de l'analyser. Et en fonction des mouvements de votre tête, ou en fonction du fait que votre tête est fixe mais que le son se déplace, il est capable de dire que le son est à tel endroit. Le pavillon de notre oreille, avec ce système de rebond un peu complexe, il nous sert à localiser les sons, notamment les sons verticalement, et aussi gauche-droite. Mais on va voir qu'il y a un autre élément qui rentre en ligne de jeu pour le gauche-droite. En tout cas, c'est un système qui permet de localiser les sons. Et ça marche encore mieux quand le pavillon est mobile. Parce qu'effectivement, les mouvements changent les réflexions sur le pavillon. Du coup, le pavillon peut être plus simple, voir les chats. À partir du moment où il est très mobile, il n'a plus besoin d'être compliqué. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand vous êtes dans une situation un peu complexe, quand vous êtes dans une soirée et qu'il y a de la musique et que vous voulez avoir une discussion avec quelqu'un, vous avez tendance à faire des mouvements de tête. Vous avez tendance à légèrement décaler la tête sur le côté. Vous cherchez une position de réflexion sur le pavillon qui vous permet de favoriser la fréquence de la voix, la fréquence du son qui vous intéresse, la voix en l'occurrence. Comme on ne peut plus bouger le pavillon de l'oreille, on bouge la tête. Alors l'autre élément, puisqu'on en parle, l'autre élément qui permet de localiser les sons, c'est le fait qu'on ait deux oreilles. Si j'ai ma tête ici, avec ma tête vue du dessus, et mes deux oreilles, si j'ai un son qui se passe là, il arrive en même temps à mes deux oreilles, le trajet, il est le même. Si mon son est ici, il y a le trajet pour arriver à cette oreille-là, le même trajet pour arriver là, et puis un trajet un peu plus long pour arriver à cette oreille-là. D'accord ? Il y a un décalage de temps entre les deux oreilles. Et là, ça va être l'inverse. D'abord arriver là, puis arriver là. Donc le fait d'avoir deux oreilles et d'avoir un décalage temporel selon le placement du son horizontalement vous permet de localiser les sons. On est d'accord que ça marche horizontalement. On est d'accord que verticalement, ça ne marche plus. Verticalement, que le son soit là ou qu'il soit là, il arrive en même temps aux deux oreilles. Qu'est-ce qui fait que vous êtes quand même capable de savoir qu'un son est là ou qu'il est là ? C'est la forme du pavillon de votre oreille. Là, pour le coup, ça joue. Particulièrement si le son se déplace.
Ouais. Est-ce que les échos ont un rôle important ?
Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas. Probablement parce que le visage un peu... Donc les épaules, je ne me suis jamais posé cette question. Je vais y réfléchir, enfin, je vais me documenter surtout. Mais probablement, hein, parce qu'elles sont quand même très proches. Hein. Ouais, c'est possible.
Oui, la phrase, c'est comment on est habillé.
Bon, on continue sur l'oreille. Ensuite, on a le conduit auditif. Et au bout du conduit auditif, on a le tympan. Alors, ce tuyau, à quoi il sert, à votre avis ? C'est le plus compliqué, en fait. En fait, imaginez qu'il n'y ait pas le tuyau. Imaginez qu'on enlève le conduit, le tympan, il est où ? Il est ici. Le tympan, vous voyez ce que c'est ? C'est une membrane très fine, très fragile. S'il est ici, c'est quoi le problème ? Bah ouais, première claque, c'est fini, quoi. Donc, on peut supposer, quelle que soit sa croyance, disons que la nature a bien fait les choses et a créé un tuyau de façon à protéger le tympan. D'accord ? Voilà. On peut supposer que c'est le premier rôle du conduit auditif. Donc, on est en train de parler du conduit auditif. Le conduit auditif, on n'est pas tous pareils, hein, mais la moyenne, c'est 1,8 cm de long et 0,8 cm de diamètre. Ce sont des moyennes. Donc, c'est un tuyau. Il protège le tympan. Mais est-ce que c'est anodin la présence d'un tuyau dans l'oreille ? Qu'est-ce qui va se passer dans ce tuyau ? Ben, il y a une partie du son qui va faire ça. Mais on est quand même d'accord qu'il y a une partie du son qui va faire ça quand même. On l'a déjà dit, un tuyau, c'est pas anodin. Hein. Un tuyau, c'est un filtre. Donc à votre avis, à quel niveau il va agir ce filtre ? Ah, j'ai oublié de définir une chose, pardon. Est-ce que vous savez l'étendue de la gamme des fréquences qu'on est capable d'entendre ? On a défini les fréquences, mais j'ai oublié de dire. Vous savez quelle gamme de fréquences on entend ? Le nombre de battements par seconde. Hein. J'ai parlé du La 440, vous voyez ce que c'est ? On a parlé du 1000 Hz, du 10 000 Hz. Quel est le son le plus grave qu'on peut entendre ? La vibration la plus lente qu'on peut entendre ? C'est 1. Et après, alors ça c'est, là il y a litige. De façon communément admise, on considère qu'en son, on s'arrête à 20 000 Hz. Alors pourquoi on s'arrête à 20 000 Hz ? Parce que si j'émets dans cette pièce le son 20 000 Hz, certaines personnes vont l'entendre. Le son pur 20 000 Hz, certaines personnes vont l'entendre. Si j'arrive à 22 000, 23 000 en son pur, plus personne n'entend. D'accord ? Par contre, on s'est rendu compte que si j'émets un signal complexe, un signal musical, qui va jusqu'à 30 000, qui va jusqu'à 40 000 Hz, selon qu'on met les 40 000 Hz ou qu'on les enlève, on n'entend pas la même chose. Donc ça fait partie des choses qu'on n'a pas encore réglées. C'est-à-dire qu'en son pur, on n'entend pas au-delà de 20 000 Hz, mais en son complexe, on entend au-delà de 20 000 Hz. Donc ça, c'est là, il y a litige. D'ailleurs, il existe des enceintes qui vont jusqu'à 40 000, 50 000. Tannoy, notamment, fait des enceintes qui montent assez haut. En dessous de 20 Hz, donc au-dessus de 20 000, les sons dont je parle, c'est ce qu'on appelle les ultrasons. Au-delà, c'est les ultrasons. Entre 20 et 20 000, c'est ce qu'on appelle la bande passante de l'oreille. Et en dessous de 20 Hz, on perçoit les sons, mais on ne les perçoit plus avec l'oreille, on les perçoit avec la peau. C'est ce qu'on appelle les infrabasses. C'est ce que vous sentez dans les concerts pop, notamment, quand il y a un coup de grosse caisse et que vous ne sentez pas, c'est que vous êtes en dessous de 20 Hz. Il y a une partie que vous entendez avec vos oreilles et puis il y a une partie que vous ressentez avec votre peau. Je montre là parce que personnellement c'est là que ça se passe, hein. Il y a des gens ça se passe là, il y a des gens ça se passe là, on n'est pas tous fait pareil. Ce qui est sûr, c'est que pour avoir une sensation, plus vous allez dans le grave, plus vous avez besoin de puissance pour entendre ces fréquences là. Pour arriver à entendre des sons de 10 Hz, il faut des amplis hyper puissants, il faut des haut-parleurs assez gros. Il y a une relation, hein, entre la taille du haut-parleur et la fréquence qu'il va reproduire. Plus le haut-parleur est grand, plus il est capable de faire des allers-retours lents et puissants, d'avoir un mouvement ample, voire être assez puissant. Plus le haut-parleur est petit, plus il peut avoir une vibration rapide en fait. C'est difficile d'obtenir une vibration en allers-retours rapide avec un système qui par ailleurs doit en plus avoir un mouvement ample dans le grave. D'un point de vue mécanique, c'est un peu antinomique. C'est-à-dire que pour avoir un son assez puissant dans le grave, il faut une suspension assez souple. Si cette suspension est assez souple pour le grave, elle va avoir tendance à faire disparaître les sons aigus. Donc c'est pour ça qu'en fait, sur une enceinte, il y a souvent plusieurs haut-parleurs. Pour arriver vraiment à rendre tout le spectre, il faut Il faut plusieurs haut-parleurs, au moins deux. Et c'est pour ça que ce genre d'enceinte-là ne peut pas descendre très très bas dans le grave, parce que pour vraiment descendre bas dans le grave, il faut des gros haut-parleurs et pas de soprano. On s'est rendu compte que les éléphants communiquent à 7 Hz. On s'est rendu compte il n'y a pas longtemps qu'avec le sommet de leur tronc, ils sont capables de communiquer sur des très longues distances. Vous avez remarqué que plus vous vous éloignez d'une source sonore, moins vous entendez le registre aigu, puis médium. Ce qui reste, c'est le grave. Quand vous êtes loin d'une fête, ce que vous entendez, c'est le boum-boum, c'est le grave. C'est les fréquences qui vont le plus loin en propagation. C'est pour ça que les éléphants utilisent des infragraves, et les baleines aussi. Les baleines qui communiquent dans l'eau... communique plutôt dans les fréquences très graves. Il y a une partie des fréquences des baleines qu'on peut entendre, et il y a une grosse partie qui est dans l'infragrave. Il est coudé, hein, ce conduit auditif. Donc ensuite, on arrive au tympan. Le rôle du tympan... Bah, un haut-parleur met corde vocale, une peau, une corde. C'est un système mécanique qui crée un phénomène acoustique. Le tympan, c'est l'inverse. C'est un phénomène qui va retransformer une énergie acoustique en mouvement mécanique. D'accord ? Le tympan, c'est un système vibratoire. Inséré dans le tympan, il y a un petit os. Solidaire d'un deuxième petit os, solidaire d'un troisième petit os. Ce qu'on appelle les osselets, c'est les trois plus petits os du corps humain. Le premier, c'est le marteau. Le deuxième, c'est l'enclume. Le troisième, des communistes dans la salle? Non, ce n'est pas la fossile, c'est l'étrier. Quand le tympan se met à vibrer, il entraîne dans son mouvement le marteau, qui va avoir un premier mouvement de levier, qui va entraîner dans son mouvement l'enclume. Ils sont solidaires, on est d'accord que le marteau ne tape pas sur l'enclume, ils sont solidaires. Mouvement de levier qui arrive jusqu'à l'étrier, qui finalement va avoir un mouvement de piston. La taille et l'agencement des osselets fait qu'en fait on a un mouvement de levier. C'est un amplificateur mécanique. Vous savez qu'un levier, c'est un amplificateur mécanique, en fait. Un levier, c'est un système... Plus la barre de votre levier est grande, plus vous avez de force. Ben voilà, ça, c'est vraiment un système de levier mécanique. On en a besoin, parce que là, on a un mouvement du tympan qui est très faible, alors qu'ici, l'étrier, il va avoir un boulot mécanique assez important à fournir. Donc, c'est vraiment un amplificateur. Les osselets, c'est une chaîne amplificatrice, chaîne mécanique amplificatrice. Tout ça se passe dans une cavité aérienne. Et ici, vous avez deux petits muscles. À quoi ils servent, à votre avis, ces muscles ? Avant, à ce moment-là, je faisais une expérience, mais là, on est dans une salle trop grande, je ne vais pas la faire. Parce que ça va me faire mal, en plus. C'est un système de protection de votre oreille, en fait. Quand vous êtes soumis à un son trop fort, ces deux muscles se tendent et ils retiennent les osselets. Ils retiennent le mouvement des osselets. C'est un système de protection pour la suite de votre oreille. L'expérience que j'aurais pu faire, c'est de frapper quelque part, faire un son très violent, mais là on est dans une pièce trop grande, je n'y arriverai pas. Et en fait, ça déclenche le réflexe. Et après, si je retape une deuxième fois, vous entendez le son moins fort, réellement. C'est-à-dire que quand vous rentrez dans une pièce où le son est très fort, ou quand le phénomène se produit de façon très furtive, sans que vous le sachiez, il faut un certain temps pour que le réflexe se déclenche. Donc dans un premier temps, vous allez entendre le son fort, et hop, il va se baisser. Quand vous rentrez dans un concert très fort, il vous paraît fort au début, et puis au bout de quelques minutes, ça va, vous vous adaptez. En fait, votre oreille s'adapte. Ou pas, hein. Si vous n'adaptez pas, vous sortez. Mais en tout cas, il y a un système d'adaptation de vos oreilles. Ce qui veut dire que votre oreille, elle n'est pas neutre. Ce qui veut dire que selon votre état de fatigue, selon ce que vous avez entendu avant, vous n'entendez pas de la même façon. Ce que je vous dis, c'est que votre oreille n'est pas un appareil de mesure, c'est un appareil de comparaison. Et donc, si vous sortez d'un lieu très bruyant, vos muscles sont tendus, vous n'y pouvez rien, c'est un réflexe. Hein. Vos muscles sont tendus et ils vont mettre un certain temps avant de se détendre. Et pendant un temps, vous entendez moins bien. Il faut du temps de silence pour que vos oreilles se relâchent complètement. Et c'est à tel point vrai que si un jour vous faites l'expérience de rentrer dans une chambre sourde pendant quelques minutes, d'être dans un silence absolu pendant quelques minutes, quand vous allez ressortir, vous allez être étonné de votre capacité auditive. Qu'on perd, hein. Ah oui, alors j'ai oublié de parler du décibel, mais c'est pas très grave. On n'en a pas conscience, mais on est en permanence dans un milieu ambiant bruyant. En fait, dans cette pièce, le silence existerait si on était à ce qu'on appelle, vous avez entendu parler du décibel, le silence qui mesure, ce qui mesure le silence absolu, c'est le zéro décibel. Dans cette pièce, dans un studio d'enregistrement très bien isolé, on est très très bien isolé, on est à 10-15 décibels. Le silence absolu sur Terre, on est quasiment impossible de l'obtenir. Quand vous sortez dans la rue, même dans Bourges, alors à Paris, on atteint parfois des 70-80 dB d'ambiance dans la rue. Dans Bourges, d'après ce que j'ai pu entendre, on doit être à 50-60 décibels. Votre oreille est en permanence soumise à des sons. Et donc, en fait, vous êtes en permanence en ville, vous êtes en permanence dans un système de réflexe. Votre oreille, elle est en permanence en train de retenir le son. Offrez-vous un voyage dans le désert un jour, pendant quelques jours. Vous allez voir que petit à petit, vous allez commencer à entendre des sons qu'on n'entend pas d'habitude, ou aller à la campagne. Je dis le désert parce qu'en France, trouver un endroit où il y a vraiment le silence, ça devient difficile. Moi, j'ai fait l'expérience d'aller dans le désert du Sahara. Vous commencez à entendre des insectes qui se baladent. Voilà, vous commencez à entendre des sons qu'on n'entend pas d'habitude. C'est assez étonnant. Tout ça se passe dans une cavité aérienne. Ça veut dire que votre tympan, il est en contact avec l'extérieur par le conduit, et puis de l'autre côté, il est en contact avec une autre masse d'air. On est d'accord qu'on parle d'un phénomène qui joue sur la pression, décompression des molécules d'air. Or, ces molécules d'air, elles sont soumises à une autre pression, qui est la pression atmosphérique. Vous n'en avez pas conscience, mais on est soumis à une pression atmosphérique. La couche d'air qui est au-dessus de nous, c'est une pression, ce qu'on appelle la pression atmosphérique. Or, cette pression atmosphérique, vous savez qu'elle change. Elle change en fonction de la météo, mais elle change aussi en fonction de l'altitude. Ça crée quoi, le phénomène de changement d'altitude? Ou changement de pression atmosphérique, ça se passe par exemple quand un train rentre dans un tunnel. Ça se passe quand un avion grimpe en altitude, descend. Qu'est-ce que ça crée comme sensation? Voilà, la sensation d'oreille bouchée. On est bien d'accord que vos oreilles, elles ne se bougent pas. Il n'y a rien qui vient boucher votre oreille. Qu'est-ce qui crée la sensation d'oreille bouchée, à votre avis? C'est la pression. Si la pression extérieure change, si elle augmente, la pression atmosphérique, elle va avoir tendance à pousser votre tympan. Et elle va le déformer, en fait. Elle va le déformer comme ça. Ça, c'est la sensation d'oreille bouchée. À l'inverse, si elle décroît, c'est l'inverse qui va se passer. Elle va aspirer votre tympan. Ça fait la même sensation. Sensation d'oreille bouchée. L'oreille bouchée, c'est le tympan qui se déforme et qui est moins mobile. Effectivement, vous entendez moins bien, parce qu'il est moins mobile. Qu'est-ce qu'on peut faire pour contrecarrer ça? Pression d'un côté du tympan. Si je veux rétablir la pression, il faut que je mette la même pression de l'autre côté. Opposition de phase, hein, toujours, hein, sur le même truc. Comment je peux faire? Il faut que je fasse rentrer de l'autre côté du tympan la même pression que l'air ambiant. Et bien ça, c'est le rôle de ce tuyau qui conduit jusqu'au fond de la gorge en relation avec le nez et qui se ferme par un petit clapet. C'est ce qu'on appelle la trompe de Slash. Et ce clapet, il s'ouvre soit quand vous en ouvrez grand la bouche, soit quand vous avalez. C'est pour ça qu'en avion, on vous invite à mâcher du chewing-gum, ce que vous avalez en fait quand vous mâchez du chewing-gum. Voilà, soit vous ouvrez la bouche, et maintenant que je vous l'ai dit, ouvrez grand la bouche et vous allez sentir votre clapet qui s'ouvre. Le clapet s'ouvre, l'air ambiant rentre, ça rétablit la pression atmosphérique des deux côtés du tympan. Et vous quittez la sensation d'oreille bouchée. Les canonniers pendant la Première Guerre mondiale, ils ouvraient grand la bouche au moment où ils donnaient le coup de canon parce que ça ouvrait le clapet et ça faisait que l'onde de choc arrivait à la fois de ce côté-là du tympan et à la fois de l'autre côté du tympan. C'est un système de protection de leur tympan. Parce qu'un canon, ça crée un fond d'onde qui est un vrai choc, qui peut complètement détruire le tympan. Donc au moment où ils faisaient le démarrage le coup de canon, ils faisaient ça. Ça ne suffisait pas toujours. C'est ce qui explique que quand vous êtes très enrhumé, je vous ai dit ce clapet, il est à la jonction entre l'oreille, la gorge et le nez. Si vous êtes très enrhumé, ce clapet il peut être bouché. Auquel cas vous n'arrivez plus à équilibrer et vous gardez votre sensation d'oreille bouchée. Ce qui peut être douloureux si vous prenez l'avion. Si vous n'arrivez plus à rééquilibrer les pressions, il y a vraiment une force importante sur le tympan et ça peut faire très mal. Ça va, c'est clair? Je peux continuer? Et donc là, on arrive à la dernière partie de l'oreille. Donc on a notre étrier qui va venir s'appuyer contre une membrane qui ferme la dernière partie de l'oreille qu'on appelle la cochlée. On appelle aussi le limaçon. Donc une membrane qui ferme la cochlée parce que cette cochlée elle est remplie d'eau. Par de lymphe, d'un liquide. C'est pour ça qu'on a besoin d'autant de force. On est d'accord que l'eau demande une force plus importante pour la faire entrer en mouvement clair. Hein, si vous mettez ma main, si je fais ce mouvement-là dans l'air, c'est hyper facile de le faire. Si je fais le même mouvement dans l'eau, je vais sentir plus de résistance. Donc, l'eau est plus résistante que l'air. C'est pour ça qu'on a besoin d'un amplificateur mécanique. Voilà. L'étrier, il a besoin de pas mal de force pour pouvoir créer ce mouvement en aller-retour. Puisque derrière, il y a un liquide, il y a la lymphe. Si je déroulais ma cochlée, j'aurais quelque chose qui aurait cette forme-là. Avec ici la membrane, mon étrier. Donc un cône. Et dans ce cône, une membrane. Alors à votre avis, pourquoi c'est un cône? Qu'est-ce qui va se passer en fait? Mon étrier, il va faire un mouvement en aller-retour. Qu'est-ce qui va se créer à l'intérieur de ce cône? À l'intérieur de la cochlée, qu'est-ce qui se crée? Une membrane qui fait comme ça des allers-retours, ça crée quoi? Ben, ça recrée un phénomène acoustique, mais dans l'eau. Ça crée un phénomène ondulatoire, mais dans l'eau. D'accord? Ça fait quoi? Ça fait quelque chose qui ressemble à des vagues, hein, finalement. Clair. Mouvement vibratoire, c'est comme la peau d'un tambour. Hein. Donc ça crée un phénomène acoustique, mais en milieu liquide, pas en milieu aérien. Si la nature avait mal fait les choses, si elle avait fait la cochlée en forme de tuyau parfait, qu'est-ce qui se passerait? Qu'est-ce qui se passe quand il y a un tuyau? Un tuyau, en fait, ça crée une résonance. Vous avez vu, hein. Et ça crée une... Si, alors, je n'ai pas pensé en amener, j'ai plusieurs tuyaux. On est d'accord, si je mets un tuyau d'une certaine taille devant ma bouche ou un tuyau d'une autre taille, il ne va pas se passer la même chose. Hein. Chaque tuyau a ce qu'on appelle une fréquence propre, en fait. Vous savez que les orgues d'église, ce sont des tuyaux. Et vous savez que la taille de chaque tuyau change pour pouvoir changer la note. Tout petit tuyau pour les aigus, tuyau hyper grand pour les graves. D'accord? Si mon oreille avait la forme d'un tube, j'aurais... qu'on appelle une fréquence propre dans le tuyau, et je ne serais capable d'entendre qu'une seule fréquence, en fait. J'aurais création d'une fréquence, en tout cas d'un champ de fréquence très faible. La forme, on est bien d'accord que si je fais ça, ça ne fait pas de filtre. Hein. Le filtre, il se crée dès qu'il y a deux parois qui sont parallèles, en fait. Si je fais ça, il n'y a plus de filtre. Hein. Il y a plutôt il y a un léger filtre, mais il y a plutôt amplification. Là, il y a vraiment filtre. Donc le cône, il permet d'éviter le ping-pong. C'est pour ça qu'en général, quand on crée un studio, on évite d'avoir des murs parallèles. Parce que les murs parallèles créent des allers-retours. En fait. Si vos murs sont parallèles, il n'y a pas d'effet de ping-pong entre les murs. Les réflexions deviennent plus complexes et elles sont moins gênantes. Donc, j'ai ma cochlée remplie d'un liquide et j'ai un phénomène qui crée une vibration dans l'eau. Et dans cette eau, j'ai une membrane qui flotte. Qu'est-ce qui se passe? Cette vibration crée des vagues, réellement des vagues, et votre membrane, elle va suivre ces vagues. Quand vous entendez un son, il y a des vagues qui se créent au niveau de cette membrane. Quand vous entendez un son aigu, les vagues vont se propager uniquement au tout début de la membrane, et plus le son est grave, plus le mouvement va jusqu'au bout de la membrane. Début de la membrane, les sons aigus, plus votre son est grave, plus il va faire bouger l'ensemble de la membrane. Et tout le long de cette membrane, il y a des petites cellules qui ressemblent à des cils. Je simplifie, hein, c'est un peu plus compliqué que ça, mais la simplification est possible. Il y en a, comme par hasard, plus de 20 000. Il y en a au moins 20 000 par oreille, comme par hasard. On a parlé de 20 000 Hertz. Hein. Et ces cellules ciliées, elles ont chacune une terminaison nerveuse qui va jusqu'au cerveau. Chaque cellule a une terminaison nerveuse. En fait, quand vous entendez un son, il y a des vagues dans votre oreille, et les vagues créent un mouvement des cellules ciliées. Chaque mouvement de la cellule ciliée, état au repos de la cellule, c'est comme ça, pas d'impulsion vers le cerveau, mouvement dans la cochlée, ce mouvement-là, hop, ça envoie à chaque fois une impulsion au cerveau. Quand les premières cellules ciliées sont sollicitées, vous êtes capable de savoir que c'est un son aigu. Plus ça va solliciter un nombre important de cellules le long de votre membrane, plus le cerveau va aller vers le bas. On va en déduire que l'image, que le son qui est perçu est un son grave. C'est la répartition des cellules sur la membrane, la variation des vagues de cette membrane, qui vous permet de distinguer les sons graves des sons aigus. Non, non, j'ai pas fini. Ça vous permet de comprendre un phénomène que vous avez peut-être déjà vécu. Si vous êtes dans un milieu ambiant assez fort, on est d'accord que son aigu, ça sollicite ça, son médium, ça sollicite ça, plus ça, son grave, ça sollicite ça, plus ça, plus ça. Donc ces premières cellules, elles sont très sollicitées, quel que soit le son que vous entendez. C'est les cellules les plus sollicitées. Si vous êtes dans un milieu ambiant très fort et que vous y restez longtemps, les cellules, elles peuvent fatiguer, et quand elles fatiguent, au bout d'un moment, elles restent comme ça. Elles ne se remettent pas comme ça, elles restent comme ça. Et donc elles envoient une impulsion en permanence au cerveau. Donc le cerveau, il entend une fréquence aiguë. Donc vous entendez un sifflement. Vous êtes déjà arrivé? C'est ça. Sifflement, c'est pas bon signe. Sifflement, c'est que vous êtes allé un petit peu trop loin, vous avez un petit peu trop sollicité vos oreilles. Donc vous entendez vraiment le sifflement, parce que les cellules ciliées, elles envoient au cerveau l'information comme s'il y avait un son. Et puis vous vous reposez, la cellule se revient à sa position de repos, le sifflement s'arrête. Les acouphènes? Alors les acouphènes, ça peut être ça.
C'est parce que c'est
des cellules qui sont abîmées et qui restent couchées. C'est pas que ça, hein. Il y a plusieurs causes possibles des acouphènes. Ça peut être carrément le cerveau qui fabrique l'acouphène. Ça arrive. C'est pas encore très très bien cerné les causes des acouphènes. Mais c'est une des causes possibles. Ça explique aussi ce qu'on a commencé à dire tout à l'heure, c'est que ces cellules qui sont le plus sollicitées au cours de la vie, c'est celles qui s'abîment les premières quand on vieillit. Et voilà. Et c'est ce qui fait que moi... Péniblement 15 000 Hz. Péniblement. La dernière fois que j'ai essayé, maintenant j'essaye plus. Ça fait trop peur. Voilà. Mais c'est voilà, petit à petit, avec l'âge, ces cellules-là s'abîment, on n'entend plus dans le jeu. Mais bon, c'est pas grave, il y a d'autres avantages à vieillir. Donc c'est pas grave. Ben voilà, vous savez l'essentiel du fonctionnement de l'oreille. Je crois. Alors, il y a deux ou trois petites choses à savoir en plus. Oui, je l'ai dit tout à l'heure, l'oreille, c'est pas un système d'analyse. On va faire une pause après. L'oreille n'est pas un système d'analyse, c'est un système de comparaison. Et un système de comparaison, il se fait facilement tromper. Alors, en puissance, on l'a vu, hein, vous avez un système d'amplification et de protection, donc vous n'entendez pas, vous n'avez pas la même sensation de puissance selon ce que vous avez entendu avant, selon d'où vous venez, hein, de quelle ambiance vous venez, et selon votre état de fatigue aussi. Hein. Effectivement, ça change la perception de la puissance d'un son. Mais également la sensation de perception des fréquences, parce qu'encore une fois, votre oreille marche en comparaison. Ça marche en comparaison avec votre mémoire rapide et avec votre mémoire à plus long terme. L'illustration la plus probante de ça, c'est ça. Je mets une voix, enfin un enregistrement. Alors, que les choses soient claires, ouais, l'enregistrement que vous écoutez, c'est pas moi qui l'ai fait. C'est bien pourri. Mais c'est pas grave.
Le courage, c'est partir quand on vous aime pas. Moi, je l'ai jamais eu.
C'est un peu dommage parce que c'est vraiment. Bref. Voilà ce que vous écoutez.
Alors que personne
vous écoutez la qualité de l'enregistrement. Il n'est pas très bon, mais enfin, vous avez un équilibre à peu près correct des fréquences.
C'est de réaliser qu'on est adulte les rêves qu'on a.
C'est pas grave, vous avez une référence, d'accord ? Imaginons que je travaille sur ce son et que j'augmente les fréquences aiguës, par exemple.
Le courage, c'est quand on fait de la crobranche alors qu'on a le vertige.
Le courage, c'est quand on s'en va et.
C'est se regarder en face. Se regarder en face chaque matin pour savoir qui on est vraiment et pour pouvoir aimer les autres en ayant pleine conscience de son être.
Le courage, c'est d'accepter d'être soi-même.
Je l'enlève.
Pour moi, le courage, ce serait d'aller...
J'arrête le son. On va le refaire. Je vous fais écouter un son, ça devient votre référence. Je monte, je fais une bosse dans les fréquences aiguës. Au moment où je fais la bosse, vous l'entendez. Vous entendez la bosse arriver. Puis votre oreille s'habitue. J'enlève la bosse et vous allez voir ce qui se passe.
Ça, que ça bouge, que ça bouge.
Je fais la bosse.
Moi, j'en sais rien. Bonsoir. C'est d'y aller. Voilà.
Je laisse la bosse un certain temps.
Eh ben, c'est faut de les mains dans le cambouis.
Je l'enlève. Pendant un moment, vous avez l'impression que ça manque d'aigu. J'arrête le son. Je laisse l'oreille revenir à une position neutre. Je remets le son. Ça vous paraît
dire
de nouveau
ce que l'on pense
normal.
Et de faire ce
que je veux dire. Je vais le faire dans une autre gamme de fréquences. Parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup d'aigu dans cet enregistrement. Et je remets. Ça vous paraît de nouveau normal. Vous voyez ce que je veux dire ? Je suis désolé, l'exemple sonore, il n'est pas terrible, mais bon, j'ai que ça sous la main. Ce que je veux vous dire, c'est que quand vous êtes en train de faire un travail sur vos sons, vous êtes en train de faire de l'égalisation, régulièrement, il faut couper le son. Laissez quelques secondes et réécoutez ce que vous faites. Parce que votre oreille, elle est sans arrêt en train de s'adapter à ce que vous faites. En fait. Quand vous avez monté l'aigu, au moment où vous montez l'aigu, l'oreille entend la montée d'aigu, elle s'habitue à cette bosse dans les aigus. Et puis, quand vous la retirez, vous avez l'impression que le son est plus bon. Voilà. Si vous travaillez comme ça, trop violemment, et sans faire très régulièrement des pauses, quand je dis très régulièrement, c'est toutes les 2 ou 3 minutes hein, qu'il faut arrêter le son et réécouter ce qu'on vient de faire. Voilà. Remettre son oreille à zéro régulièrement. L'oreille n'est pas du tout un instrument d'analyse, c'est un instrument de comparaison. Et la dernière chose que je voulais vous dire par rapport à l'oreille. Alors personnellement, ça a changé complètement ma façon d'aborder le son, que ce soit en faisant des disques et surtout en faisant des spectacles. On sait que l'image mentale que vous fabriquez, quand vous m'écoutez là en ce moment, vous faites une image mentale de ma voix. Ce que je vous dis est vrai pour tous les sens. C'est vrai pour le toucher, c'est vrai pour le goûter, c'est pour le goût, pardon. C'est l'heure de goûter, c'est ça. C'est vrai pour la vision. Vous pensez probablement, moi c'est ce que je croyais avant de tomber sur les travaux de chercheurs canadiens, que l'image mentale que vous vous faites, elle est créée directement à partir de vos organes sensoriels. Et en fait, ce n'est pas comme ça que ça marche. Il y a une partie de votre cerveau qui prend les données objectives que vous donne votre organe sensoriel, qui va chercher dans votre mémoire tout ce que vous avez vécu avant, qui fait des comparaisons et qui crée de toutes pièces l'image mentale que vous faites. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que l'image mentale que vous faites de ma voix depuis tout à l'heure, vous la créez à partir de ma voix réelle, de ce que votre oreille vous donne de ma voix réelle, et à partir de toutes les voix que vous avez déjà entendues, toutes les expériences que vous avez déjà eues, et vous créez l'image mentale de ma voix. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'en ce moment, il n'y a pas deux personnes qui entendent la même voix, il n'y a pas deux personnes qui voient le même visage. Vous êtes en train de créer une image mentale de mon visage, et ça, alors maintenant que je vous l'ai dit, faites attention la prochaine fois que vous allez rencontrer quelqu'un pour la première fois, et que vous savez que vous allez passer quelques heures avec, soyez attentif à la façon dont l'image mentale du visage de cette personne va bouger pendant les premières heures où vous la rencontrez. Ça bouge complètement. Tout à l'heure, quand tu es rentré dans la pièce, tu m'as fait penser à quelqu'un que je connais. J'ai vraiment vu ton visage vraiment comme cette personne que je connais. Là, c'est fini. C'est-à-dire que petit à petit, les données objectives de mes yeux prennent le pas sur la mémoire qui a vraiment généré une forme spécifique. Vous voyez ce que je veux dire ? On est vraiment en train de fabriquer les images mentales qui sont liées et aux expériences réelles et à la mémoire qu'on a chacun, et on est bien d'accord qu'on n'a pas la même mémoire. Ce qui veut dire que quand vous proposez un spectacle, vous êtes incapable de savoir ce que les gens vont voir, ce qu'ils vont entendre, ce qu'ils vont... Et depuis que je sais ça, je me pose beaucoup moins de questions. Non mais, c'est pas anodin. J'ai travaillé avec beaucoup de metteurs en scène qui me disaient « Oui, tu comprends, là, on va mettre tel son, comme ça les gens ils vont avoir telle sensation, ils vont penser tel truc, ça va leur faire penser à tel truc. Ben, » depuis que je sais ça, je ne me pose plus de questions. Je fais ce que j'ai envie de faire moi, et puis vous en faites ce que vous voulez. Voilà. On ne peut absolument pas contrôler ce que les gens vivent, ce que les gens ressentent. Alors en plus, il y a le facteur émotionnel qui vient se mettre en plus par-dessus tout ça, mais même... Si on parle strictement d'image mentale, en ce moment, il n'y a pas deux personnes qui voient le même visage en me regardant. Clairement. Et même avec le temps qui va passer, hein, malgré tout. Voilà. C'est ce qui explique des phénomènes que vous avez tous connus. C'est ce qui explique que les bébés ne comprennent rien au monde. Un bébé, je ne sais pas si vous avez vu un bébé qui vient de naître, mais les yeux, ils ont du mal même à se fixer. Hein. Il voit quasiment rien. Il n'a aucune expérience. Il n'a aucun élément en mémoire. Le seul élément qu'il a en mémoire, c'est les sons qu'il a perçus quand il était dans le ventre de sa mère. Le seul truc qui est en contact avec l'extérieur, c'est effectivement les oreilles. Donc effectivement, il a entendu beaucoup la voix de sa mère. Donc dès qu'il entend la voix de sa mère, pouf, là il a un truc qu'il connaît et ça le rassure. Le battement du cœur, la régularité, hein, le rythme. Mais tout le reste est à construire. Et donc petit à petit, il va engranger des expériences, il va pouvoir avoir des éléments de comparaison et petit à petit, il se forge une image du monde. Mais ça, pour le coup, c'est l'avantage de vieillir. Plus vous vieillissez, plus vous avez d'expérience et plus vous avez une image précise du monde. Ça fait longtemps que je cherche un avantage à vieillir. J'ai trouvé. C'est ce qui explique que vous êtes capable de rêver. Quand vous rêvez, le cerveau fabrique des images mentales. Il n'utilise plus les sens, il utilise uniquement la mémoire. Et il fabrique des images mentales. On est d'accord que les rêves sont parfois aussi probants que la réalité. Et c'est ce qui explique les hallucinations dont vous êtes victime régulièrement. Alors il y a une hallucination qui est vachement pratique depuis que ça existe, c'est l'hallucination de la sonnerie du téléphone et aussi l'hallucination du vibreur, parce que maintenant tout le monde a vécu ça. Pendant une fraction de seconde se passe autour de vous un son qui ressemble étrangement au tout début de la sonnerie de votre téléphone. La sonnerie de votre téléphone, vous l'avez bien en mémoire. Pendant une fraction de seconde, votre cerveau vous fait entendre réellement la sonnerie de votre téléphone ou vous fait sentir réellement le vibreur, alors qu'en fait, il y a juste un truc qui vous a effleuré ou peut-être que c'est votre pantalon. Hein. Mais pendant une fraction de seconde, vous avez vraiment l'hallucination. Hein. La sensation, vous l'avez vraiment. L'image mentale, vous l'avez vraiment. Et puis, les données objectives vous montrent que c'était pas ça. Ouf, l'hallucination disparaît. Mais elle a vraiment eu lieu. L'image mentale, elle s'est vraiment créée. Laisse réfléchir là-dessus. On fait une petite pause, hein. Ce sera bienvenu. Mais enfin, posez des questions si vous en avez sur tout ce que c'est dit, et après on fait une pause. Alors, il faudrait que je te retrouve ça, il faut que je regarde chez moi, parce que c'est un travail que j'ai fait il y a 20 ans, donc j'ai un peu perdu. C'est Jean Caston. Mais je vérifierai et je te donnerai le... Okay. Ceci dit, c'est vieux, hein. Il faut maintenant s'intéresser à ce qui se fait aujourd'hui, hein. On progresse. Non, mais c'est vrai, c'est vieux, c'est une vieille recherche. Elle a 20 ans, cette recherche, elle est en 94. Donc, et déjà, les travaux ont commencé à dater. Donc, mais c'est peu connu, hein. C'est pour ça que je vous en parle. C'est très peu connu, hein. Il y a très peu d'ingénieurs qui savent ça. Le temps entre le moment où une découverte se fait et le moment où le grand public, et même les gens concernés, parce que ça nous concerne quand même, les sons et l'écoute, avant que tout le monde soit au courant, il se passe un temps très très long. Mais il y a certainement des travaux, mais même en France, hein, il y a des gens qui bossent, il y a un laboratoire du CNRS à Marseille qui travaille beaucoup là-dessus. Ah oui, alors je vous signale quand même, avant qu'on fasse la pause, qu'il y a une grande révolution qui s'annonce, qui est liée à l'écoute au casque. Alors ça tombe bien, puisqu'on va parler après un peu de l'écoute au casque. On est bien d'accord que si j'écoute sur enceinte, quand j'ai la tête qui bouge, le son qui parvient au pavillon de mes oreilles va changer, parce que j'ai la tête qui bouge, donc le pavillon change de position par rapport au son qui me parvient, d'accord ? Donc j'entends le son, si je suis à votre place, j'entends le son à l'extérieur de moi, j'entends le son qui vient des enceintes de devant moi. Si je mets un casque sur mes oreilles, quand je bouge la tête, il n'y a plus de changement, plus rien ne change. Je bouge la tête, le cerveau a les données transmises par les yeux et par les muscles du cou. Mouvement de la tête, mouvement donc du pavillon des oreilles, aucun changement de son. Seule interprétation possible, le son vient du crâne. Il n'y a pas d'autre interprétation possible pour le cerveau. Le son vient du crâne. Quand vous avez un casque sur les oreilles, tout le son vient de l'intérieur de votre tête. Vous ne pouvez pas avoir la sensation que le son est extérieur. C'est impossible. La seule solution, ça serait quoi ? Alors, oui, mais tu ne sais pas les mouvements de tête que vont avoir les gens qui écoutent. Non, ça ne marche pas non plus, casque ouvert. Tu as quand même la sensation que le son est intérieur. Non, la solution, ça serait quoi ? La solution, ça serait que le son change quand je bouge la tête. Comment on peut faire ? On met un émetteur sur le casque, on met un récepteur devant, un système qui détecte le mouvement et qui va modifier le son en fonction des mouvements de la tête. Ça existe. Mais qu'est-ce qu'il faut comme autre élément pour que ça marche ? Parce que ça marche. Hein. Mais il y a un autre élément qui rentre en ligne de compte, c'est la façon dont fonctionne le pavillon de votre oreille à vous. Parce qu'on est d'accord qu'on n'a pas les mêmes pavillons. Donc il ne fonctionne pas pareil. Donc, pour que ça marche bien, on vous met un micro dans votre oreille, on vous fait percevoir un son test, qui est un bruit blanc en fait, hein, qu'on va placer à différents endroits de l'espace. On recueille le signal perçu par le micro. On a un logiciel qui en déduit la façon dont fonctionne votre pavillon. On transforme le son du casque en fonction de votre pavillon. On vous met le casque sur les oreilles, un émetteur, un récepteur, et là vous entendez le son à l'extérieur. Alors je l'ai testé moi pour la première fois, il n'y a pas très longtemps. C'est hallucinant. Hallucinant. Mais c'est le seul moyen, donc c'est un moyen complexe. Hein. Mais je vous le signale parce que c'est une des révolutions qui va arriver là. On vous a peut-être parlé du son binaural, vous avez peut-être entendu parler du son binaural, Radio France parle beaucoup du son binaural. Moi, ce que je leur reproche, c'est qu'ils vous donnent des soi-disant exemples à écouter qui ne marchent pas.
Non.
Parce que c'est débile. Hein. Ils sont un peu cons, hein. Vraiment, je l'aurais déjà dit. Hein. Mais non, mais ils sont cons, parce que la seule façon pour que ça marche, c'est de faire une impression de votre pavillon. Et là, ça marche, c'est fabuleux. Ils sont en train d'annoncer un truc qui, pour l'instant, n'est pas encore opérationnel, parce qu'on n'a pas encore trouvé le truc, mais ça vient. Hein. Les chercheurs, il y a une équipe de chercheurs qui regroupe France Télévisions, Orange, Radio France. Ils sont en train d'imaginer une application sur iPhone qui vous permettra de faire l'empreinte de votre oreille, et avec vos propres écouteurs, vous pourrez avoir un système... C'est des gros budgets, ouais. Ah oui, ils ont des gros budgets, ouais. Je confirme. En fait, on a failli faire un partenariat avec eux sur la face cachée de la Lune, en fait. Il y a des questions qui viennent faire une captation et qu'on fasse une restitution du spectacle avec ce système-là. Ça, c'est pas fait. C'est pas très grave. Pas très envie de bosser avec Orange.
On a rencontré la bonne femme qui est comme
au Mans. Oui, c'était au Mans, ouais. C'était au Mans que ça devait se faire.
Oui, on a
Ah, vous l'avez rencontré ?
On a écouté.
Ah, vous avez écouté ?
Oui, avec du Labo du
Monde. D'accord. Alors, c'était au Mans que ça devait se faire, parce qu'en fait, je crois que le mec qui est responsable de ça à France Télévisions, il est du Mans, en fait. Donc, il connaît bien.
Oui, mais la démo, enfin, moi, je continue de penser que ce qui est vachement important, c'est ce qu'on écoute, plus que le système.
La démo était
bah, ça, je suis bien d'accord.
Parce que, ce qu'on a écouté, c'est merdique au possible.
C'est toujours comme ça.
Et,
c'est toujours comme ça.
C'est nul, quoi. Ouais. Et donc, finalement, le système est complètement minimisé par rapport à la
télévision.
Ah oui, mais ça marche pas, ça marche pas. Puis en plus, ils vous ont pas fait l'empreinte de vos oreilles. Mais tant que ça c'est pas fait, ça ne marche pas très bien. Mais dès que ça c'est fait, par contre, je vous garantis que c'est hallucinant. C'est vraiment hallucinant. Vous mettez le casque, moi ils m'ont fait, hein. Ils m'ont d'abord fait écouter des trucs sur enceinte, puis à un moment ils m'ont fait l'empreinte et tout, ils m'ont mis le casque, ils ont envoyé le son, je leur ai dit, bah oui, non, mais là il y a un problème, il marche pas le casque, c'est les enceintes. Et en fait, non, c'était le casque. J'ai enlevé le casque, c'était plus rien.
Participant, si je peux poser une question. Je trouve que la compréhension de ce qu'on fait sans arrêt perturbé par un abus de langage qu'on fait, qu'on appelle depuis le début son, ce qui n'en est pas. C'est-à-dire que le son est une sensation qui n'existe qu'à l'intérieur du cerveau. Tout le reste dont on vient de parler, c'est donc une sensation subjective. Tout le reste, c'est comme on l'a défini, c'est-à-dire c'est une vibration de l'énergie qui est un signal seulement, qui se quantifie de manière physique, par amplitude, etc. Et donc, il n'est pas étonnant qu'il y ait une distinction entre ce que le cerveau écoute avec ses mécanismes propres et les phénomènes physiques qui se trouvent là. Mais par commodité, on appelle son tout ce, tout ce qu'on fait, tout ce qui bouge, etc. Très souvent, une séquence à la place d'un seul son, c'est un domaine où il y a des confusions permanentes. C'est bien commode, et je ne suis pas contre, c'est très pratique d'en travailler comme ça. Hein. Mais pour bien comprendre le système, il ne faut pas faire cette confusion.
Je suis tout à fait d'accord. Et c'est un truc que c'est une étape que j'ai oubliée, parce qu'en général, je dis toujours que pour qu'il y ait un son, il faut qu'il y ait quelqu'un.
Et s'il n'y a pas d'oreille, il n'y a pas de
voilà,
son.
Voilà, exactement. S'il n'y a pas quelqu'un pour écouter, il n'y a pas de son. Effectivement. En tout cas, je pense que je suis d'accord avec toi, c'est la meilleure définition du son, c'est d'aller jusqu'à la personne qui
écoute.
Si dans la salle, il n'y a personne pour entendre...
Je ne suis pas puriste à ce point-là, c'est très commode de...
Ouais, mais je suis d'accord avec toi.
Non, mais si on veut vraiment éclaircir le phénomène de l'audition, il y a des moments où il faut quand même faire cette distinction, sinon on ne comprend plus rien.
On est d'accord. Voilà, c'est fait. Merci.
Non, mais je ne suis pas moraliste pour aider à
comprendre. Si, je sens bien.
Tu poses.
Ouais. De toute façon, moi j'en veux, mais pas un peu plus. Après, on va juste parler d'exemples. Ça va être plus simple. Et on va même reprendre en écoutant un petit peu. Je vais vous faire un mini concert. Sous casque.